Vous écoutez On lit pour vous.
Le nouveau facteur autochtone. Une chronique de Chantal Hébert publiée dans l'Actualité, édition de juillet-août 2026. Lorsque Jean Lapierre et moi avons recueilli des témoignages pour notre livre titré « Confessions post-référendaires, les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui », il y a une douzaine d'années, j'ai tenté en vain d'arrimer mon horaire avec celui du député néo-démocrate fédéral Roméo Saganache afin de lui consacrer un chapitre. Parce qu'il exerçait un rôle important au sein du Grand Conseil d'écrit en 1995, il avait été au cœur du débat entourant le référendum dans les communautés autochtones. À l'initiative de leur leader, les Nations Cree et Inuit avaient voté à 96% contre le projet souverainiste lors de consultations parallèles. Dans le brouhaha de la dernière semaine de la campagne, l'affaire avait fait relativement peu de bruit et le résultat avait vraisemblablement eu bien peu d'effet dans l'électorat québécois. Néanmoins, l'omission d'un chapitre sur la perspective autochtone m'a toujours semblé être une grande carence de l'ouvrage qui a découlé de nos recherches. Au minimum, on peut parler d'une carence de préscience, car si jamais il devait y avoir un troisième référendum sur la souveraineté du Québec, il y a fort à parier que la question autochtone serait déterminante pour la suite des choses. On peut même croire que sur la liste des têtes de chapitre, elle détrônerait la fameuse loi fédérale sur la clarté référendaire. C'est qu'au fil des trois décennies qui se sont écoulées depuis le dernier référendum, la question autochtone est devenue un élément incontournable de la mise en chantier de grands projets susceptibles de toucher les territoires des Premières Nations. Cela inclut toute future démarche sécessionniste provinciale pour en rompre les liens de ces nations avec le Canada. Le mouvement séparatiste de l'Alberta l'a appris à ses dépens en mai 2026, lorsqu'une juge a mis en veilleuse son projet d'obtenir un référendum sur la sécession faute de consultation avec les nations autochtones. Ce jugement montre du doigt le gouvernement de la première ministre Danielle Smith pour avoir négligé ses obligations constitutionnelles à l'égard des Premières Nations avant de permettre à Élections Alberta de donner le feu vert à une pétition pro-séparation qui ne s'applique pas au Québec. Il vient néanmoins souligner, à gros traits, l'évolution à vitesse grand V du droit constitutionnel autochtone depuis le référendum de 1995. Cette évolution est de nature à changer la donne. Entre 1990 et aujourd'hui, pas moins de 40 décisions juridiques, dont bon nombre rendues par la Cour suprême, ont complètement bouleversé les prémices sur lesquelles s'appuyait l'intelligentsia indépendantiste de l'époque. Pour l'essentiel, ces décisions reconnaissent aux Premières Nations une latitude historique sur les questions portant sur le développement de leur territoire et l'avenir de leur communauté. Adoptée en 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s'inscrit dans cette tendance lourde. Jusqu'à présent, les paramètres de l'obligation qui incombe au gouvernement en matière de consultation autochtone n'ont jamais été testés dans le cadre d'un projet sécessionniste. Suffirait-il d'avoir des discussions approfondies avec les communautés concernées, comme ça a été le cas dans le dossier de projet pétrolier, même si ces consultations n'aboutissaient pas à un consentement? Pas nécessairement, selon plusieurs juristes. Dans une décision rendue en 2004, la Cour suprême évoquait le concept d'une gradation en fonction de l'importance de l'incidence d'un projet en matière de consultation avec les nations autochtones. Cela fait dire à Karine Miller, professeure de droit constitutionnel et autochtone à l'Université de Montréal, qu'en raison de la gravité de l'enjeu, il faudrait un consentement autochtone pour qu'un projet de sécession soit jugé constitutionnellement légitime, y compris sur le front international. En entrevue à l'émission « Les faits d'abord » à l'antenne de Radio-Canada le mois dernier, elle illustrait ainsi l'évolution juridique des décennies qui ont suivi le référendum de 1995 et son aboutissement probable dans un dossier de sécession. Citation : « Il y a eu une époque où les femmes étaient considérées comme des enfants, où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais aujourd'hui, on ne s'imaginerait plus ne pas reconnaître le droit des femmes. C'est ce qui s'est passé depuis les années 1990 pour les Autochtones. Ellipse, de vouloir aujourd'hui penser faire sécession sans consulter, sans avoir de consentement des peuples autochtones, c'est aussi archaïque. Fin de citation. On en reparlera certainement. Fin de cette chronique de Chantal Hébert titrée « Le nouveau facteur autochtone » publiée dans l'actualité, édition de juillet-août 2026.
Loin d'être inutiles, les petits bras du T.Rex auraient eu une fonction redoutable selon ce chercheur. Un texte rédigé par la rédaction, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science. Ces bras font rire. Pourtant, une griffe du T.Rex pouvait exercer une pression colossale sur sa proie. Ses membres minuscules, longtemps moqués, cachent peut-être l'une des armes les plus ingénieuses de la préhistoire. Et si on avait tout faux depuis le début? Longtemps considérés comme des vestiges inutiles, les membres antérieurs du Tyrannosaurus rex ont alimenté débats et hypothèses pendant des décennies. Cette réflexion n'est pas nouvelle. Stephen Stanley, paléontologue à l'Université de Hawaï à Manoa, a présenté ses travaux à Seattle lors d'une conférence de la Société américaine de géologie défendant l'idée que ses bras d'un mètre étaient des outils de chasse redoutables. Une théorie qui bouscule les certitudes, même si la communauté scientifique reste divisée. Un mètre, c'est la longueur des bras du T.Rex, dérisoire face à un corps pouvant dépasser 12 mètres. Cette disproportion a longtemps conduit les chercheurs à les juger anecdotiques, voire encombrants. Trois théories dominaient. Attraper et étrangler les proies, aider l'animal à se relever après une chute, maintenir le partenaire lors de l'accouplement. Stanley rejette ces hypothèses. Pour lui, ses membres courts étaient parfaitement adaptés à une fonction précise, lacérer. Grâce à des os capables de se mouvoir dans plusieurs directions, le tyrannosaure aurait pu bondir sur le dos d'une proie et lui infliger 4 entailles profondes en quelques fractions de seconde, puis répéter le geste à vitesse fulgurante. Un détail anatomique renforce l'argument. Au cours de l'évolution, les tyrannosaures ont perdu une de leurs 3 griffes. Bilan, les 2 griffes restantes concentraient une pression supérieure de 50% à celle de leurs ancêtres. Loin d'un appauvrissement, c'est une optimisation. Stanley souligne aussi que d'autres dinosaures de gabarit comparable tranchaient la gorge de leur proie avec leurs membres antérieurs. Pourquoi le T.Rex ferait-il exception? Tout le monde n'est pas convaincu. Jacob Winder, paléobiologiste à l'Université de Bristol, assistait à cette même conférence. Il trouve illogique que ses bras courts aient servi à découper des proies et penche plutôt pour des actions mineures et complémentaires, comme l'accouplement. Stanley rétorque que l'utilisation des griffes pendant l'acte sexuel aurait été franchement dangereuse. Thomas Holtz, spécialiste des tyrannosaures à l'Université du Maryland, soulève une contrainte mécanique réelle. Le torse d'un T.Rex adulte est si massif que la zone de prise efficace restait très proche de la poitrine de l'animal. Pour déployer ses bras contre une proie, le dinosaure aurait dû plaquer sa poitrine contre elle, rendant impossible l'usage simultané de ses mâchoires géantes. Une limitation de taille. Holtz avance en revanche une piste captivante. Les bras du jeune T.Rex étaient proportionnellement bien plus grands et sans doute plus fonctionnels. La chasse aux petites proies rapides n'exigeait pas une puissance de morsure démesurée. Avec la croissance, les mâchoires prenaient progressivement le relais, reléguant les membres antérieurs à un rôle secondaire. Stanley lui-même admet que les bras s'atrophiaient probablement avec l'âge. Mais il refuse d'y voir des membres en voie de disparition comparables aux ailes du kiwi. Sa position est plus nuancée. Chez l'adulte, ses griffes restaient mobilisables de manière opportuniste, notamment face à des proies résistantes que les mâchoires seules ne suffisaient pas à maîtriser. Ce débat dépasse la simple curiosité anatomique. Il pose une question fondamentale en paléontologie. Comment distinguer un organe vestigial d'un outil spécialisé? Les preuves fossiles ne permettent pas encore de trancher définitivement. Mais une chose est sûre, railler les bras du T.rex, c'est peut-être sous-estimer l'un des prédateurs les plus redoutables que la Terre ait porté. C'était loin d'être inutile, les petits bras du T.rex auraient eu une fonction redoutable selon ce chercheur. Un texte publié le 6 juin 2026 dans Futura Science.
Les corallines, dures mais sensibles. Un texte de Clara Villeneuve, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Ces algues aux allures de pierre sont menacées par l'acidification des océans. À la hauteur de Rimouski, dans l'estuaire maritime du fleuve Saint-Laurent, les zones côtières peu profondes sont parsemées d'étranges croûtes roses, très dures. Des croûtes qui ne sont ni des rochers, ni des coraux, ni même des mollusques, mais des algues. Ces algues, corallines encroûtantes, sont un type d'algues rouges tout à fait surprenantes, avec leurs cellules entourées d'une paroi durcie par l'accumulation de carbonate de calcium, le composé qui rend aussi rigides les coquilles des mollusques. Des algues, donc, dures comme des roches. Pas surprenant qu'on ait d'abord cru les corallines apparentées au corail avant de les classer parmi les algues rouges. Celles-ci ne sont pas des plantes, même si les deux se retrouvent au sein du même supergroupe, les Archaeplastida, et partagent plusieurs caractéristiques. On compte environ 700 espèces de corallines présentes dans tous les océans du monde. Ces algues calcaires doivent leur couleur barbe à papa à des phycobiliprotéines, pigments rougeâtres qui masquent le vert de la chlorophylle, mais qui contribuent à la photosynthèse avec cette dernière. Elles jouent un rôle central dans la formation des écosystèmes marins, notamment dans la consolidation de nombreux récifs coralliens tropicaux. Elles sont comme un ciment vivant des océans, résume Johanna Vega Sequeda, doctorante en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. De plus, les corallines forment des structures solides qui servent de refuge et de lieu de reproduction pour les poissons et d'autres organismes marins. Ces algues calcaires protègent aussi les fonds marins de l'érosion en augmentant leur stabilité et en atténuant l'effet des vagues, poursuit la doctorante, qui s'intéresse à l'impact de l'acidité de l'eau sur ces algues. Car malgré leur apparence robuste, les corallines sont extrêmement sensibles à l'acidification des océans liée à l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'air. À un pH acide, l'eau peut devenir corrosive et provoquer la dissolution de leurs structures externes, ce qui peut menacer directement leur survie et, par conséquent, l'intégrité des écosystèmes marins côtiers qu'elles constituent, explique Johanna Vega Sequeda. Pour mieux comprendre comment l'acidité affecte la croissance des corallines encroûtantes dans le Saint-Laurent, la doctorante a mené des expériences sur le terrain en 2023 et 2024, dans les eaux saumâtres de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Munis de ciseaux coriaces et d'un marteau, des outils plus associés aux géologues qu'aux phycologues, la doctorante a réussi à prélever ces algues rigides, puis les a plongées dans un colorant avant de les remettre à l'eau, à proximité de sondes sous-marines qui enregistrent la température, la salinité et l'acidité de l'eau toutes les 15 minutes pour bien documenter les fluctuations dans cet environnement très dynamique. La chercheuse est retournée sur place de 4 à 6 mois plus tard pour les récolter. Le colorant est absorbé par l'algue et marque le début de mon expérience, explique l'océanographe. Lors de la croissance des corallines, des couches de cellules se superposent à celles marquées de colorant. Je peux donc mesurer la croissance verticale, l'épaisseur des algues à partir de cette ligne de base, décrit celle qui en est à analyser toutes les données récoltées pour son projet. Puisque les corallines encroûtantes ne grandissent que de quelques millièmes de millimètres par an, il est impossible de mesurer leur croissance à l'œil nu. C'est donc sur des images prises au microscope électronique à balayage que la doctorante a accompli la tâche. On y aperçoit la magnifique structure alvéolée de leur squelette. D'ailleurs, fait cocasse, les corallines fossilisent. Et comme leur structure enregistre les conditions environnementales du passé, leurs fossiles sont très précieux aux yeux des scientifiques qui, comme Johanna, s'intéressent aux effets des changements climatiques sur nos océans. Chimie des carbonates. Les océans absorbent naturellement le gaz carbonique, CO2, atmosphérique, qui réagit avec l'eau, H2O, pour former de l'acide carbonique, H2CO3. Les quantités croissantes de CO2 dissous dans l'eau engendrent un déséquilibre chimique complexe qui entraîne 2 effets délétères chez les corallines. D'abord, cela diminue la disponibilité du carbonate, CO32-, ce qui entrave la formation des structures de carbonate de calcium, CaCO3, des corallines, et d'autres organismes calcaires comme les mollusques et les coraux, et menace leur survie. Ensuite, cela augmente la concentration des ions H+, ce qui acidifie les océans et rend l'eau corrosive. C'était « Les corallines, dures mais sensibles », un texte de Clara Villeneuve, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Au Danemark, la citoyenneté demeure hors de portée pour des générations d'immigrés. Un texte d'Adèle Surprenant, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir. À l'heure où les États-Unis remettent en question le droit du sol, le Danemark est érigé en modèle pour l'Europe de demain. Ses politiques migratoires, parmi les plus strictes du continent, comprennent l'application stricte du droit du sang et un accès restreint à la nationalité au prix de l'exclusion d'une partie de la population. Le regard penché sur ses mains vallonnées, creusées par 3 décennies de déracinement, Locke Maillard Ré, 57 ans, demande timidement de répéter la question. Une première fois, puis une deuxième. Elle ne connaît pas le concept de maison, précise à ses côtés Bupas Gotham, président de la Société bhoutanaise du Danemark, une association qui lutte contre l'apatridie et pour les droits des réfugiés, comme Locke Maillard. Il traduit une énième fois en népalais en vain. « Où te sens-tu chez toi ?» Les murs de son appartement de Horsen, dans la région du Jutland central, répondent à sa place. Les paysages encadrés et les étoffes brodées aux couleurs de drapeaux trahissent ses origines. Issu de la minorité népalaise du Bhoutan, Locke Maillard est expulsé de force par les autorités du pays au début des années 1990. Débouté de sa citoyenneté par un changement de loi, la communauté Lhotse Champas devient apatride et entame un exil prolongé dans les camps de réfugiés au Népal. Les années passent, les enfants naissent, comme Bupas. À partir de 2007,
Les Nations unies lancent un programme de réinstallation dans 8 pays tiers. C'est dans ce contexte que le petit garçon des camps et sa famille quittent les sommets du Népal en 2011 pour les plaines sans aspérité du royaume scandinave, suivant une promesse des autorités danoises. Ils ne seront bientôt plus apatrides. Lokmaya, pour sa part, s'y installe en 2013. La maison attendra. À 25 ans, Boupas n'a toujours pas obtenu la résidence permanente au Danemark, valable 10 ans, une étape obligatoire dans le parcours administratif vers la nationalité. Parce qu'il a fait des études universitaires, il ne remplit pas le critère professionnel, soit avoir travaillé 3 ans et demi sur les 4 dernières années. Lokmaya, analphabète, a peu de chances d'atteindre un jour le niveau requis en danois. Naître au Danemark ne suffit pas non plus à acquérir la nationalité, à la différence du Canada et des États-Unis. Pour devenir danois, il faut remplir une série de critères professionnels, linguistiques et légaux contraignants. Le nom des candidats approuvés est ensuite inscrit dans un texte de loi, puis voté au Folketing, le Parlement danois. Le processus législatif est sensible aux échéances électorales, à l'actualité et peut s'étendre sur plusieurs années. Le resserrement des voies d'accès à la nationalité s'est fait progressivement depuis le début du siècle. En 2021, une énième réforme est impulsée par le gouvernement de la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen, réélue pour un 3e mandat lors des élections législatives anticipées du 24 mars dernier. Sous sa coupe, le parti de gauche a durci sa ligne sur l'immigration, arguant des mesures nécessaires pour protéger l'État-providence. Résultat, en 2025, seul un immigrant sur 5 détient la nationalité. La même année, les 2/3 des personnes nées au Danemark de parents immigrants étaient danois. Le nombre d'apatrides, dépourvus de toute nationalité, stagne autour de 8 500 sur une population totale de 6 millions d'habitants. Lokmaya Re montre sa carte de citoyenneté bhoutanaise, invalidée par les autorités. Arbitraire. Des dérogations sont prévues pour réduire les inégalités d'accès à la nationalité, particulièrement importantes pour les enfants scolarisés au Danemark, les réfugiés peu éduqués ou les personnes vivant avec un handicap. Pour être dispensés de l'un des critères, les candidats doivent entrer directement en contact avec l'un des 17 parlementaires du comité de naturalisation. Si leur dossier est plébiscité par le comité, leur nom est inscrit dans le texte de loi attribuant la nationalité, voté 2 fois par an au Parlement. Ce processus est complètement réduit à l'arbitraire des politiciens, tranche Eva Ersbol, chercheuse rattachée au Danish Institute for Human Rights. La citoyenneté est vulnérable aux alternances politiques et au climat plus ou moins favorable à l'immigration, explique-t-elle au Devoir. En témoigne, par exemple, le taux de rejet des demandes de dérogation, passé de 3 % en 2014 à 98 % en 2019, d'après les données de l'Institut. « Ton avenir dépend de ce qu'ils ont mangé au petit-déjeuner », dit avec ironie Amal Amin Elm, née il y a 22 ans dans la petite commune de Holstebro, à 350 km de Copenhague, de parents somaliens. J'ai dû leur fournir une lettre de motivation pour montrer à quel point je suis exceptionnelle. C'est extrêmement dégradant de devoir supplier ces politiciens de leur prouver à quel point je suis danoise, alors que c'est comme ça que je me sens, raconte la jeune femme qui tente d'être exemptée du critère professionnel, pour poursuivre ses études sans reporter l'obtention de sa nationalité. Sur un fil tendu. Shahi Hussein, 21 ans, calcule chacun de ses pas. Sa scolarité est un sans-faute, son comportement est irréprochable. Le logement étudiant où elle reçoit le devoir à Odense ne présente pas l'ombre d'une poussière. Malgré son parcours impeccable, la bachelière est privée de certaines choses. Sans passeport danois, impossible d'envisager de partir à l'étranger pour un échange universitaire ou en voyage durant une année sabbatique, rituel chez les jeunes du pays. Impossible aussi de visiter la partie de sa famille restée à Afrin, au Kurdistan syrien, qu'elle a fui en 2011, au début de la guerre civile qui a ravagé le pays. En janvier 2026, l'épée de Damoclès est encore alourdie. Son père, chauffeur pour personnes à mobilité réduite, a vu sa demande de naturalisation annulée et suspendue pour une durée de 4 ans et demi après avoir reçu une amende de 3 000 couronnes danoises, 645 $ canadiens, pour excès de vitesse. Avec la citoyenneté, je me sentirai protégée, dit Sahi. Le regard droit et l'amertume au bout des lèvres, héritage d'un parcours éprouvant émotionnellement. En attendant, elle préfère prendre les transports en commun. Nous appartenons, mais nous ne comptons pas. Un paradoxe habite chacun de ces exilés de la citoyenneté. Amal, qui milite au sein du collectif Youth for Citizenship, Jeunes pour la citoyenneté, l'illustre ainsi. On nous demande constamment de prouver que nous sommes Danois, mais quand nous utilisons notre droit à la liberté d'expression, on veut nous faire taire. Sa demande de dérogation, en cours de traitement, a été suspendue à l'annonce des élections législatives anticipées. « La démocratie bloque mon droit de prendre part à la démocratie », déplore celle qui n'a pas pu se rendre aux urnes le 24 mars, comme 11,5% de la population en âge de voter au Danemark. L'immigration a été au centre de la brève campagne électorale, en dépit du nombre très faible de nouveaux arrivants et de l'intégration très réussie, analyse Michala Bendiksen, fondatrice de l'association Refugees Welcome. En 2025, seuls 839 permis de séjour au titre de l'asile ont été accordés, selon le ministère de l'Immigration, un nombre historiquement bas. En privant de droits civiques une partie de sa population, le Danemark fabrique l'exclusion, estime la sociologue Emma Gedberg Sorensen. À l'instar de plusieurs observateurs, elle regarde d'un œil inquiet la montée en puissance des discours anti-immigration portés par une grande partie de la classe politique danoise, de l'extrême droite aux sociaux-démocrates. En décembre 2025, Mette Frederiksen a déclaré vouloir modifier la Convention européenne des droits de l'homme afin de garantir l'expulsion des étrangers reconnus coupables de crimes graves. Le resserrement autour de la citoyenneté témoigne de l'ampleur des changements survenus dans notre société et à l'échelle de l'Europe, croit la sociologue. Une preuve vivante aux airs de testament. C'était « Au Danemark, la citoyenneté demeure hors de portée pour des générations d'immigrés ». Un texte d'Adèle Surprenant, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir.